Bah, je suis au Sonopolis moi depuis un petit moment déjà, depuis la création de Sonopolis, donc ça fait un peu plus de 20 ans. Donc depuis l'ouverture du pavillon tropical, je me suis occupé plutôt effectivement de toute cette partie tropicale, des poissons de récif, des requins aussi, très particulièrement des coraux. J'ai beaucoup travaillé justement sur les coraux, sur l'implantation de tous les coraux dans les aquariums qu'il y a au Sonopolis, et puis participer aussi à des travaux de recherche avec des équipes sur les coraux. On pourra en parler un petit peu. Vous savez tous ce que c'est que le corail, hein, les coraux? Oui, non? À votre avis, c'est végétal, c'est minéral, animal?
Minéral.
Animal, végétal. Il n'y a pas l'unanimité là, hein. Mais ce n'était pas une question facile, hein, c'est vrai. Alors, le corail, c'est un animal. C'est un animal qui est apparenté, si vous voulez, un petit peu aux méduses. Aux méduses, aux anémones de mer. Vous savez ce que c'est que les anémones de mer, hein?
Oui,
Hein,
c'est
c'est des animaux. En fait, c'est tout un groupe d'animaux qu'on appelle les cnidaires. L'origine de ce mot cnidaire, en fait, ça vient de la racine cnidos, je crois, qui correspond en fait à des petites cellules qu'ont les coraux, les anémones de mer, les méduses, des petites cellules qu'on appelle des cellules urticantes. C'est-à-dire, c'est une cellule, quand elle est un petit peu titillée par quelque chose qui vient la toucher, qui déclenche un petit harpon, en fait, et qui va envoyer une sorte de petite flèche avec du venin, et qui va déclencher la réaction de piqûre que vous sentez quand vous touchez une méduse ou une anémone de mer. Et pour le corail, c'est pareil. Donc, en fait, tout ce groupe d'animaux qu'on appelle les cnidaires, ils ont une caractéristique, c'est de piquer, voilà. Il y a beaucoup d'espèces de coraux. Il y a à peu près, sur les récifs coralliens, il y a à peu près, j'ai plus en tête exactement, mais c'est quelques centaines, c'est de l'ordre de 400 espèces de coraux, avec des formes très diverses, hein. Souvent des colonies. Alors, ça peut faire des grosses boules, ça peut faire des squelettes arborescents, ça peut faire des plateaux. Certains coraux sont solitaires aussi, je vous parlais de colonies, mais certains sont solitaires. Il y a juste un polype, hein, qui peut être des fois assez gros, jusqu'à une quinzaine de centimètres de diamètre pour un individu. C'est très varié, hein. Il faut regarder les photos, vous tapez coraux sur Google, vous allez voir plein de choses très jolies.
À quoi servent les coraux?
Alors, à quoi servent les coraux pour les humains? Alors, ces récifs, ils forment souvent des barrières à proximité des côtes. Et ils ont un effet de un peu comme des oasis de vie en fait dans des océans qui sont, comme je disais, assez pauvres. Il n'y a pas autant de nourriture disponible dans les océans tropicaux que sur les côtes bretonnes par exemple, paradoxalement, alors que les récifs coralliens sont pourtant des écosystèmes très riches. Mais ils vont avoir des effets de concentrateurs un petit peu de nourriture. C'est-à-dire que les coraux ont trouvé ce moyen de se développer avec les algues, et du coup, autour, bah, ça va multiplier toute une faune des poissons, toutes sortes d'animaux qui vont... ça crée une chaîne alimentaire, en fait, de relations alimentaires. Donc, c'est des endroits où on va trouver beaucoup de poissons. Donc, ça veut dire des activités de pêche qui sont importantes. Donc ça, pour revenir vers ta question, là où c'est important, c'est pour la pêche, par exemple. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays tropicaux qui dépendent de la mer pour se nourrir, la pêche, elle est concentrée sur les récifs coralliens. Si les récifs coralliens disparaissent, il n'y a plus de pêche. Ça, c'est un problème qui est clair, réglé simplement. S'il n'y a plus de récifs, les poissons disparaissent aussi. Les récifs forment des barrières également. Vous avez entendu parler, il y a quelques années, du tsunami en Asie du Sud-Est, hein, qui a fait des centaines de milliers de morts. Vous savez, cette grande vague suite à un tremblement de terre. Alors, les récifs coralliens, ils arrivent à protéger en fait les côtes de ce qu'on appelle les tsunamis ou les grands raz de marée comme ça. Voilà. Après, en quoi les coraux sont aussi utiles pour les humains? Ben, ça peut être aussi pour des domaines un petit peu différents, comme toute la recherche pharmaceutique, l'élaboration de médicaments pour nous soigner, hein, tous. Et on trouve tous les jours des médicaments contre le cancer, contre différentes maladies, qui sont issus, alors pas forcément directement des coraux, mais de beaucoup d'animaux qui vivent dans les récifs coralliens et uniquement dans les récifs coralliens.
Est-ce que le corail, ça peut se manger ?
Alors, est-ce que ça peut se manger ? Ben non, en fait, c'est peut-être... heureusement, je dirais, parce qu'il y a tellement de menaces sur eux. Au moins, c'est vrai qu'on ne les mange pas, ou pas directement. Il y a des utilisations autres, par contre, qui sont préjudiciables. Par exemple, dans certains pays, les Maldives, par exemple, ils utilisent le squelette du corail pour construire des routes, pour construire comme des briques, en fait. Hein. Vous voyez, ils le taillent. Et pour le squelette qui a été compacté sur les récifs, en fait, hein, ça fait des, comme des blocs, comme du ciment, en fait. Et ils arrivent à construire des routes, des maisons avec ça. Alors le problème, c'est que ça, au fur et à mesure, ça sape un peu la base du récif. Donc ça, c'est pas très bon. Mais le corail se mange pas, non.
Mais comment est-ce que ça en va disparaître ?
Alors oui, comme je disais, en voie de disparition, j'espère, non. Mais les récifs coralliens, d'une manière un peu plus globale, sont menacés, ouais, de disparition. Dans certaines zones, ouais. Ouais.
Quelles sont les menaces pour les coraux ?
Alors les menaces pour les coraux, bon, c'est une bonne question, mais on ne peut pas passer à côté parce qu'on est en plein dedans. Les récifs coralliens sont gravement menacés. On estime qu'à peu près au moins 25% des récifs coralliens existants ont disparu déjà, définitivement, depuis. Et ce n'est pas vieux, hein, ça date de 10-15 ans. Hein, donc vous voyez, on est sur des échelles de temps qui vont très vite. Et que sur ce qui reste, il y a au moins 50% qui est gravement menacé. Donc ça veut dire qu'il n'est pas du tout sûr que vos enfants puissent voir des récifs coralliens. On en est vraiment à ce niveau-là. On ne sait pas pour l'instant. Peut-être que les coraux, les récifs vont réussir à s'adapter, à évoluer. Pour l'instant, la situation est, on peut le dire, assez grave pour les récifs. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Alors, la pollution, en fait, hein, pollution des côtes, quand il y a des activités humaines à proximité des côtes, avec des rejets, tous les rejets agricoles, les rejets industriels, les rejets urbains, c'est-à-dire toutes les villes qui n'ont pas d'assainissement, qui rejettent sur les récifs coralliens tout ce qui est l'activité humaine des villes, en fait, hein, les égouts, les choses comme ça. Ça détruit les récifs parce que les récifs ont besoin d'une eau de très bonne qualité pour se développer. Donc la pollution, les activités de pêche, hein, quand on pêche les poissons sur les récifs, ça déséquilibre le récif corallien et le corail lui-même va en subir les conséquences. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus pêcher du tout, mais il faut arriver à gérer mieux les équilibres, c'est-à-dire pêcher de façon durable. Ça commence à s'organiser dans certaines zones.
Qu'est-ce que vous voulez dire en pêche durable ?
Alors pêche durable, ça veut dire que quand on pêche des poissons, si on pêche les poissons avant qu'ils soient adultes, par exemple, c'est-à-dire avant qu'ils puissent se reproduire, eh ben, ça veut dire que forcément ça ne peut pas aller très loin, quoi, hein, il faut que les animaux aient le temps de se reproduire et que les jeunes aient le temps de se développer jusqu'à l'âge adulte et se reproduire eux-mêmes pour qu'on puisse espérer que les générations futures puissent pêcher ces mêmes espèces de poissons. Si on capture les animaux avant qu'ils se reproduisent ou trop, bah forcément ça ne marche plus et l'espèce disparaît. Qu'est-ce qui menace également les récifs coralliens ? Alors c'est les modifications du climat, vous en avez entendu parler, hein. Les coraux ont une particularité. Les récifs coralliens, en fait, on va les trouver dans des eaux qui sont entre 23 et 30 degrés à peu près, hein, des eaux tropicales chaudes, hein, dans lesquelles il fait bon se baigner. Si les coraux sont exposés à une température supérieure à 30 degrés, au-dessus de 30 degrés, pendant un certain temps, trop longtemps, alors ça peut être des semaines ou des mois suivant les espèces, ou quelques jours simplement, le corail meurt.
Comment on peut les sauver ?
Alors comment on peut les sauver ? Ben, alors il y a beaucoup de questions qui nous dépassent, hein, qui sont des gestions à une grande échelle, des environnements, de gestion des pêches, des choses comme ça. Mais comme je disais tout à l'heure, à votre échelle, vous pouvez agir au quotidien. Hein, on n'a pas toujours l'impression que nos petits gestes vont vraiment avoir un impact, mais comme je disais, bah, d'essayer d'éviter de gaspiller, d'avoir de prendre conscience en fait que quelquefois des choses qu'on fait sont pas bonnes pour l'environnement. Les choses qui sont suremballées, les emballages qu'on jette dans la nature, faire attention à recycler tout, hein, jeter les choses dans les bonnes poubelles, les choses comme ça. Nous, c'est un peu comme ça qu'on peut agir. Des choses, par exemple, bon, c'est un autre débat, mais un autre sujet, l'huile de palme, vous en entendrez peut-être parler un jour, hein, qui est une huile qui est beaucoup utilisée dans les pays tropicaux. Qui est beaucoup cultivé, hein, c'est des palmiers en fait, et on coupe les forêts tropicales pour faire pousser cette huile de palme. Donc vous en trouvez dans le Nutella, dans plein de choses très bonnes, tout ça. Le problème, c'est qu'elle est catastrophique pour l'environnement. On coupe les forêts tropicales, et elle est même catastrophique pour les récifs coralliens, parce que ces grandes cultures de palmiers, tout ça, font que l'eau est plus retenue en fait dans les forêts tropicales, et elle coule vers la côte très rapidement. Et cet afflux d'eau douce, en fait, qui entraîne en plus plein de polluants avec elle, va être néfaste pour les récifs coralliens. Donc vous voyez, c'est souvent des réactions en chaîne, des choses qui concernent plutôt la forêt, en fait, la destruction de la forêt, vont être mauvaises aussi pour les récifs. Donc à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'être vigilant et d'être raisonnable dans nos consommations, en général.